Je vous présente un peu notre table ronde. Nathalie Loiseau, la directrice de l'ENA, que je remercie vivement d'avoir accepté de participer à ce débat. Claire Guichet, du Conseil économique, social et environnemental, et qui est doctorante, et qui a été très impliquée dans les assises de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc qui connaît bien ces sujets. Simone Cassette de l'UGIC-CGT, mais qui n'est pas qu'UGIC-CGT, qui est ingénieure chez Thales et qui est impliquée dans un centre de recherche et qui est dans le groupe ingénieur-docteur et qui est, voilà, excusez-moi, ça allait sans le dire, et qui est dans le groupe recherche-enseignement supérieur de la CGT. Bon, Isabelle Tissingen, vice-présidente de la région Île-de-France, devrait nous rejoindre, et José Milano, le directeur des affaires sociales de la Fédération française des sociétés d'assurance, doit nous rejoindre d'un instant à l'autre. Il avait prévu qu'il arriverait un tout petit peu de manière décalée. Je pense qu'on remarquera sa présence dans le débat puisqu'il représente la parole des entreprises sur cette question. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est une table ronde plus que paritaire dans un sens, ce qui est une exception dans la difficulté d'avoir des représentations féminines. C'est peut-être un signe sur le doctorat, ça pourrait être un des arguments. Donc je voulais d'abord commencer par donner la parole à Patrick Fridançon, qui est chargé d'une mission sur la reconnaissance professionnelle du doctorat, parce que ça nous permettra d'éclairer le contexte de la mise en œuvre de la loi, puisque le thème du débat n'est pas le doctorat en soi, mais la mise en œuvre de la loi, parce qu'il y a eu des changements qui impactent, on y reviendra avec Nathalie Loiseau, la fonction publique et qui impactent les entreprises. On y reviendra aussi avec nos débatteurs sur la question des conventions de branche, des conventions collectives, de la reconnaissance du doctorat pour les entreprises. Donc, Patrick Fridançon, je vais vous demander de nous dire un peu où on en est sur votre mission et comment vous voyez cette question de la mise en œuvre.
En venant à ce débat et en remerciant le groupe AEF et les RUE pour l'invitation, je suis venu avec trois dispositions d'esprit qui sont la modestie, qui sont l'ambition, qui sont la fermeté et un scoop. Alors, la modestie. D'une part, ça fait beaucoup de temps que ces questions sont à l'ordre du jour. J'ai ici le programme et les actes d'un colloque qui avait été organisé par le ministère de la Recherche le 15 mars 2002 et dont l'organisateur était un conseiller du ministre de la Recherche de l'époque qui s'appelle toujours Bertrand Montuber et où il y avait beaucoup de représentants des entreprises et des différentes organisations syndicales et associatives. Beaucoup de modestie aussi parce que notre mission reçoit de manière régulière des contributions, des invitations d'interlocuteurs des universités, des entreprises, des grands établissements, des écoles d'ingénieurs, de secteurs de la fonction publique et que nous comptons organiser, si cela se révèle possible, une grande rencontre, un peu sur le modèle de 2002, mais avec de l'espoir d'avancer, au début de l'automne, de manière à pouvoir faire état des expériences, des propositions concrètes et des idées qui nous sont apportées. De la modestie aussi, parce que il faut bien voir qu'un des articles de la loi du 22 juillet 2013, alors après ce que vous avez dit, je ne sais même plus si je peux prononcer le nom de la ministre, un des articles, qui est l'article 82, est purement et simplement la reprise d'un article de la loi de 2006 proposé par le ministre de l'époque, François Goulard, c'est-à-dire un article qui, pour l'essentiel, portant sur la reconnaissance des docteurs dans les entreprises, article qui était resté pour l'essentiel inappliqué. Et là, la reprise de l'article est assortie d'une condition de délai sous 2 ans d'application. Et modestie enfin, parce que cette loi, à la différence de toutes les autres, couvre les trois fonctions publiques, alors que dans le texte initial, elle ne couvrait que la fonction publique d'État. Donc elle couvre la fonction publique territoriale où il y a des besoins démographiques importants. Elle couvre aussi la fonction publique hospitalière et naturellement la fonction publique d'État et les entreprises. Et que le champ de la mission, c'est tout, le privé et les trois fonctions publiques. Donc il y a là un enjeu extraordinairement élevé et la question, c'est de savoir comment on fait et ce qu'on veut faire. Donc j'en viens à ce qui est l'ambition. Et l'ambition, c'est de dire, au fond, que cette mission, qui est ce qu'on appelle dans le langage technique, une mission d'appui. C'est-à-dire, ce n'est pas une mission destinée à faire un rapport, c'est une mission destinée à ce que les dispositions de la loi entrent en vigueur réellement et dans les meilleures conditions possibles. Donc, j'ai tendance à dire que la mission est, d'une certaine manière, au service des docteurs. Et je le dis. J'ai tendance à dire aussi que l'objectif, c'est de contribuer à améliorer la position internationale de la France. J'ai tendance à dire que c'est d'apporter davantage de diversité dans les trois fonctions publiques et dans les entreprises. J'ai tendance à dire que c'est faire partager les compétences des docteurs, assorties le cas échéant de formations complémentaires, de faire partager les compétences des docteurs dans des quantités de secteurs où elles sont utiles, où elles sont nécessaires et où les docteurs se révèlent ce qu'ils ont été, c'est-à-dire à la fois des scientifiques et des professionnels. Donc voilà cette ambition. Et cette ambition, elle est de dire, et c'est mon volet sur la fermeté, toute la loi, rien que la loi, mais la loi. Toute la loi, cela veut dire qu'on travaille avec les entreprises et avec les partenaires sociaux pour arriver de manière la plus concrète à de l'amélioration soit du nombre de docteurs, soit du niveau de rémunération des docteurs. Et de ce point de vue-là, je parle de façon réaliste. Une seule convention collective à appliquer l'esprit de la loi Goulard de 2006, c'est la chimie. Et c'est pour autant, et ce n'est pas une critique contre les conventions collectives, mais c'est pour autant un des domaines des entreprises où les docteurs sont les moins bien reconnus, les moins bien rémunérés. Donc, nous estimons que vis-à-vis des entreprises, je parle du MEDEF, je parle de la CGPME, je parle de l'UPA, je parle naturellement aussi des organisations syndicales. Il y a du chemin à faire et notre point de vue, c'est que tous les moyens sont bons. Toute la loi, ça veut dire aussi, naturellement, les dispositions qui concernent l'École nationale d'administration, même si tout le monde qui connaît un peu la musique s'apercevra qu'une partie des dispositions qui sont dans la loi étaient déjà possibles avant la loi et que d'autres, sur le concours interne, sur le concours de la troisième voie, ont un effet tout petit puisqu'il y a, sur une base de 80, 40 énarques reçus au concours externe, 32 à l'interne et 8 sur la troisième voie. Donc ça veut dire l'ENA, parmi d'autres. Toute la loi, ça veut dire aussi un arsenal de mesures, un arsenal, terme est tout à fait affreux, une série de dispositifs très diversifiés, à la fois touchant les grands corps, et je le dis franchement, les grands corps, la Cour des comptes, le Conseil d'État, l'inspection des finances, par exemple. Ça veut dire aussi des corps ayant des effectifs plus nombreux. Toute la loi, ça veut dire aussi que notre mission ne sera vraiment crédible que si les ministères les plus directement concernés, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, appliquent la loi eux-mêmes. Alors, rien que la loi, ça veut dire que nous nous occupons de l'insertion professionnelle des docteurs. Nous ne nous occupons pas du doctorat. Nous ne nous occupons pas de toutes sortes de propositions qui viseraient à faire autre chose que le standard international, c'est-à-dire le PhD. Donc, je me résume et je conclue. D'une part, nous souhaitons vivement travailler avec les entreprises et avec les salariés des entreprises pour avancer dans des directions qui ont déjà commencé. Deuxièmement, nous considérons que dans le cadre des trois fonctions publiques d'État, la loi doit s'appliquer, mais qu'elle doit s'appliquer en tenant compte des réalités de la discussion et selon des modalités qui visent à augmenter le nombre de docteurs là où des dispositions existent déjà, corps des mines, corps des ponts, corps des eaux et forêts, il y en avait trois en 2010, ils sont plus que deux maintenant, ou des corps plus nombreux. Ça veut dire aussi que nous ne nous interdisons pas de penser aux salariés des trois fonctions publiques ou des entreprises qui veulent passer des thèses en formation continue. Ça veut dire enfin que l'objectif, c'est amplifier un mouvement qui existe déjà. Une dépêche récente de l'AEF rappelait que dans les incubateurs qui sont des lieux d'innovation entre le dispositif enseignement supérieur recherche et les entreprises, des incubateurs qui, à l'origine, embauchaient uniquement des ingénieurs, embauchent maintenant ou des ingénieurs qui sont docteurs ou des docteurs. Donc, voilà, si vous voulez, nous estimons qu'il y a un mouvement qui a commencé. Il y a un mouvement qui doit être amplifié pour que, à côté d'autres, nous n'oublions pas les petites et moyennes entreprises, nous n'oublions pas, et vous y avez fait allusion, la part des femmes dans les atouts que la femme a, que la France. La femme a des atouts, ça c'est clair. Les atouts que la France a par rapport aux difficultés qu'elle connaît. Et je voudrais donner ici le scoop auquel je faisais allusion. Voilà un des corps d'inspection, qui est l'inspection générale des affaires sociales, qui avait entamé une réflexion sur les points sur lesquels elle n'était pas en situation de compétence maximale. Et je ne peux pas m'empêcher de dire ici à cette tribune qu'il y avait notamment ses connaissances en matière d'actuariat. Et l'inspection générale des affaires sociales, après des débats assez complexes qui ont commencé avant la loi et avant même le changement de majorité, est à l'origine d'un projet de décret qui est sur les rails et qui va être le premier décret qui sera dans la suite de la loi, mais ayant une origine bien antérieure. Et qui va permettre des recrutements réservés de docteurs à l'entrée du corps de l'inspection générale des affaires sociales. Donc je conclue en disant ceci. Ces articles de la loi ont montré un consensus sur l'ensemble des groupes politiques. Et c'est tout à fait extraordinaire de voir comment des députés de toutes les opinions représentées au Parlement sont intervenus pour l'application de cette disposition. Donc, nous estimons qu'il existe un consensus politique. Nous souhaitons dégager aussi un consensus dans la société civile. Nous souhaitons avancer au fur et à mesure, sinon il n'y aurait rien. Mais j'ai tendance à dire, nous espérons que tous, et notamment tous ceux et celles qui sont dans cette salle, seront dans la réalisation de ce texte, avec nous.
Merci. Alors, Patrick Filançon, pour avoir brossé ce tableau. Consensus politique, mais des blocages dans la société qui demeurent, qui sont exprimés à la fois dans la haute fonction publique. Nous avons eu des tas d'anecdotes pendant la discussion du projet de loi par deux parlementaires avec les conseillers ministériels où il y avait, indépendamment des frontières politiques, des antagonismes vraiment culturels, des blocages aussi dans le monde de l'entreprise. Donc on va les évoquer parce que on discutait avec les intervenants avant. Est-ce qu'une loi peut tout? Maintenant tout commence, tout compte fait. Alors on va prendre deux points de vue. D'abord Nathalie Loiseau, puisqu'on a pas mal abordé les questions de fonction publique. Puis José Milano après, qui est arrivé, on va lui laisser le temps d'intégrer les arguments des uns et des autres. Nathalie Loiseau, comment voyez-vous justement ces blocages et la possibilité de les lever, non seulement du point de vue de l'ENA, parce que tout compte fait, l'ENA, c'est un symbole fort, mais quantitativement par rapport au flux de 11 à 12 000 docteurs par an, et qui ne se dirigent pas tous vers l'ENA, à notre connaissance, c'est plutôt de l'ordre du symbolique. Mais derrière, il y a l'enjeu de la haute fonction publique et des cadres de la fonction publique, sans parler simplement de la haute fonction publique.
Alors, merci d'abord de m'avoir convié à cette rencontre. Je ne suis pas sûre d'avoir à parler depuis l'ensemble de la fonction publique, mais plutôt depuis l'école que je dirige et qui précisément n'est pas représentative de ces blocages que vous évoquez. Tout simplement parce que si il y a un élément malgré tout nouveau dans la loi concernant l'accès à la haute fonction publique, c'est un élargissement de la possibilité pour les docteurs de présenter les concours de l'ENA. Alors vous avez parfaitement raison, on est dans l'ordre du symbolique, puisque un concours de l'ENA, ça recrute 80 personnes par an. Donc la question du devenir professionnel des docteurs n'est pas réglée par une plus grande ouverture des concours de l'ENA. Tout de même, jusqu'à présent, Patrick Fridançon l'a dit, en fait, les docteurs pouvaient déjà présenter l'ENA. C'est vrai, sauf qu'ils ne le faisaient pas, ou en tout cas, ils ne le réussissaient pas. Sur les 9 dernières années, aucun docteur recruté à l'ENA par le biais du concours externe, c'est-à-dire aucun docteur terminant son doctorat, réussissant son doctorat et passant l'ENA dans la foulée. On a en revanche à peu près 4% des élèves reçus à l'ENA qui ont un doctorat dans les 9 dernières années et qui le faisaient après une première expérience dans la fonction publique ou après une première expérience dans le secteur privé. Et des docteurs venant de disciplines très différentes, histoire, lettres, droit, économie, mais 4% seulement sur des cohortes qui sont de 80 élèves. Ce qui s'est fait avec la loi et ce qui est d'application immédiate, vous disiez toute la loi et en tout cas appliquer la loi pour l'ENA, c'est fait. C'est la possibilité pour les docteurs d'accéder au concours interne et au troisième concours de l'ENA, c'est-à-dire la prise en compte, la valorisation des années de préparation du doctorat, soit comme expérience professionnelle pour passer le troisième concours, soit en cas de contrat doctoral comme année de service public pour pouvoir être comptabilisé pour le concours interne. Ça a été voté avec la loi de juillet 2013. C'est d'application immédiate, ça veut dire que dès le concours 2014, ceux qui remplissent les conditions peuvent se présenter au concours interne et au troisième concours. Et surtout, dès maintenant, les cycles préparatoires au concours interne et au troisième concours sont ouverts. Les inscriptions sont maintenant closes, mais elles ont été ouvertes fin décembre. L'examen d'entrée dans les cycles préparatoires a lieu début avril et il est donc ouvert aux docteurs qui présentent, qui réunissent les conditions prévues par la nouvelle loi. Du côté de l'école, et plus largement, c'est un mouvement qui va dans le sens de la mission qui m'a été confiée, c'est-à-dire de diversifier le recrutement de la haute fonction publique. En fait, c'est la mission de l'ENA depuis 1945. Si j'ose dire, je n'ai rien inventé. Dans les attendus de l'ordonnance de 1945, on a appelé ça à l'époque démocratiser l'accès à la fonction publique. Aujourd'hui, on parle de diversification. Le vrai souci, c'est d'attirer tous les talents dont l'État, et je ne peux parler que pour l'État, pas pour les trois fonctions publiques, mais dont l'État a besoin. Et donc la possibilité de faire venir et de faire réussir le concours de l'ENA à des docteurs en économie, des docteurs en droit ou dans d'autres disciplines, est une possibilité qui nous intéresse. Mais derrière le texte de la loi, derrière la, entre guillemets, satisfaction d'être parvenu à une rédaction de bonne qualité et à une mise en œuvre immédiate, il y a le travail qui doit être fait pour que quelqu'un qui a un grade de docteur puisse réussir ce type de concours. et on ne doit pas se contenter de dire, ben voilà, la loi est là, et puis on attend de voir ce que ça donne. Ça n'est pas raisonnable, ça n'est pas réaliste. Un concours comme le concours de l'ENA, c'est un concours qui demande une forme de pluridisciplinarité qui est assez différente de ce que représentent les études doctorales. Ça nécessite en réalité, pour les docteurs comme pour la plupart des candidats, de passer par des cycles préparatoires, des centres de préparation. Et nous, nous sommes en relation avec les centres de préparation pour voir de quelle manière intégrer les docteurs et leur apporter ce qui leur manque en termes de préparation à un concours comme celui de l'ENA.
Merci. On va revenir sur ces questions du contenu de la thèse, de la formation des thésards et de leur adaptation. Ce que je vois comme point commun entre fonction publique et entreprise, et c'est un point commun tout compte fait du débat de la société française, c'est sa diversification des recrutements, les pesanteurs où on a toujours les grands corps, les gens qui sortent de l'ENA, qui occupent les grands postes, mais qui ont fait en gros Sciences Po et qui vont à l'ENA. Ça, c'est un point commun, c'est-à-dire cette forme de monolithisme qui existe dans le recrutement. Je donnerai un chiffre quand même qui peut peut-être éclairer le débat. On a environ, on va dire, 12 000 docteurs par an. 13 000. Alors voilà, le chiffre est 13 000. Oui, j'ai confondu avec un autre chiffre. 13 000. Mais on a, je regardais les chiffres des... Alors, c'est pas tout à fait les grandes écoles, parce que dedans, il y a des très petites écoles. Mais la conférence des grandes écoles dit, nous diplômons à Bac plus 5, 26 500 ingénieurs et 16 500 diplômés d'écoles de management et de commerce. Avec un niveau, je crois qu'en privé, les dirigeants de la conférence des grandes écoles se l'accordent, très inégal. Donc, c'est 12 000 docteurs Bac plus 8 face à 26 500 et 16 500 Bac plus 5. Alors, José Milano, je suis un peu provocateur, mais il y a un problème aussi pour les entreprises de diversification du recrutement qui se pose peut-être dans les mêmes termes que dans la fonction publique. Quel est votre regard? On discutait avant le débat sur l'impact d'une loi. Vous estimiez que la loi ne peut pas tout, qu'il faut créer des passerelles. Alors, quel message positif, tout compte fait, on peut donner aujourd'hui dans le dialogue entre entreprises, les syndicats dans les entreprises et le milieu académique?
Je ne sais pas si c'est un message positif. En tout cas, j'essaierai d'être réaliste. Comme le disait le consoeur précédent, on est dans des univers qui ont des logiques différentes et qui sont construites dans le temps. Aujourd'hui, le constat des entreprises, c'est que... c'est pas la diversification pour la diversification. C'est la question, c'est... On a à repositionner un certain nombre d'entreprises françaises dans la chaîne de valeur, et notamment dans des niveaux à haute valeur ajoutée. Et là-dedans, est-ce que dans ce repositionnement stratégique et économique des entreprises françaises, il y a des places pour les chercheurs? C'est-à-dire, est-ce que les compétences des chercheurs aujourd'hui correspondent aux besoins des entreprises? Bon, à ce stade, la réponse ne peut être que mitigée. C'est-à-dire qu'on a d'un côté un système d'enseignement supérieur, et je vais volontairement, j'espère pas simplificateur, mais dresser les grands traits, fabriquer de la compétence de très haut niveau dans un domaine extrêmement pointu. C'est un peu orthogonal avec ce que produit aujourd'hui produisent les grandes écoles, qui est plutôt de la diversité, de la transversalité dans l'acquisition des compétences. Donc on a quelque chose qui est assez différent. Deuxièmement, est-ce que le système d'enseignement supérieur fabrique de la main-d'œuvre au sens économique du terme pour les entreprises françaises? C'est pas sa vocation. La question de l'insertion professionnelle des docteurs faisait pas partie de l'agenda de l'enseignement supérieur et de la recherche jusqu'à très récemment. De surcroît, les choses sont complexes parce que le système français, depuis deux siècles, a introduit une différence un peu étonnante, en tout cas, même si on voit bien aujourd'hui quelles en sont les limites entre les grandes écoles et l'université. Donc, naturellement, le vivier de recrutement des entreprises, en tout cas pour ces élites ou pour ces grands spécialistes, a été plus les grandes écoles que l'université. C'est un constat qu'on fait. Bon. Ça doit se construire dans le temps. Alors, ma conviction, je vous l'ai dit au téléphone, c'est que parmi nos maîtres, un certain nombre d'entre nous dans cette salle, il y a Michel Crozier en 99, il écrit quelque chose qui était, on ne change pas, c'était par décret. Donc, bon, voilà. Donc, si les textes changeaient les choses, mais même la loi, je pense que dans son esprit, c'est un peu la même chose. Mais peu importe. Je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de se dire, et si on construit des passerelles entre nos deux univers? Et il faut quand même constater que ces dernières années, des choses sont positives. Les chiffres sont une réponse insuffisante, mais qui montre une voie, c'est-à-dire la capacité d'un organisme de formation supérieure à se mettre dans une logique d'entreprise, c'est-à-dire répondre à des besoins opérationnels de l'entreprise et essayer de coupler une formation à la fois académique de haut niveau et extrêmement opérationnelle et pas en situation de travail pendant 3 ans. Ça, ça donne des résultats. Sans doute qu'on peut aller plus loin dans cette voie-là. Là où on s'est sans doute raté, c'est la réforme des écoles doctorales en 2002. Il n'y a pas l'entreprise dans la réforme des écoles doctorales. Donc comment voulez-vous demander à l'entreprise de recruter des gens hyper spécialisés à Bac plus 8 s'ils découvrent en quelque sorte l'entreprise à Bac plus 8 ? C'est-à-dire que le développement des compétences qui sont les leurs ne correspondent pas à la dynamique de besoin de compétences des entreprises. Donc la question est moins Bac plus 5, Bac plus 8 que la question de l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc théoriquement, il y a bien un espace pour les docteurs. Et j'en veux pour preuve, sans doute la seule branche qui vraiment est allée loin dans le lien, dans les passerelles entre ces deux univers qui est la chimie. Vous avez des labos de recherche qui font de la recherche appliquée et qui ont des débouchés industriels en chimie. Il y a des commandes, c'est-à-dire que l'entreprise chimique est capable de formuler des questions et des commandes aux labos de recherche qui y répondent. Donc cette coopération-là, industrielle, permet de mettre des jeunes en situation de travailler pour les deux univers. Et je dirais que la conséquence de ce travail en commun a été la prise en compte dans la convention collective d'un certain nombre d'anciennetés, de 18 mois de temps de recherche en thèse, dans l'ancienneté, dans la branche. Mais c'est une conséquence ultime d'un travail fait en commun et de passerelles construites ensemble. C'est peut-être au travers de ces exemples réussis qu'il nous faut travailler, pour un certain nombre de secteurs d'activité, au rapprochement de nos deux univers. Mais ça passe beaucoup par, je pense, une vision globale du sujet et une remise en cause un petit peu des préjugés de part et d'autre.
Oui. Alors, Simone Cassette, vous représentez l'UGIC-CGT. Vous êtes ingénieur, docteur. Alors, dites. Je vous laisse dire. Mais quel est votre point de vue, justement, en tant que chercheur dans une entreprise et syndicaliste, évidemment, sur l'évolution qui peut être celle des entreprises vis-à-vis des docteurs, dans l'entreprise que vous connaissez, Thales, mais aussi de ce que vous recueillez chez vos collègues.
Alors oui, je ne suis pas ingénieur, c'est-à-dire que je n'ai pas de diplôme d'ingénieur. Mais dans mon entreprise, on ne fait pas la distinction entre les ingénieurs et les chercheurs. Donc j'ai un doctorat. Et dans Thales, il y a environ 250 docteurs. Moi, je travaille au centre de recherche. On en a entre 20 et 25. Par contre, on a quand même du mal à les embaucher. Et ceux qui sont embauchés en priorité sont des doctorants qui sont passés par une école d'ingénieurs avant. Alors, du coup, ça m'incite à dire que c'est important la reconnaissance du doctorat et il ne faut pas les mettre au même niveau le doctorat ne doit pas être au même niveau que le diplôme d'ingénieur, sinon on ne comprend pas pourquoi des ingénieurs, y compris des ingénieurs de grandes écoles, passeraient du temps, 3 ans, pour obtenir un doctorat. Alors on peut dire effectivement qu'ils le font parce qu'ils ont fait le choix de travailler dans la recherche, mais ils ne sont pas tous dans la recherche. Ils sont même plutôt dans les entreprises, ceux-là, même s'il n'y en a qu'une petite partie. Alors, je voudrais, en tant que QGICT CGT, je voudrais dire que la CGT, depuis longtemps, se bat pour la reconnaissance du diplôme de doctorat. D'une part, parce que nous considérons que c'est une formation de au niveau qui doit être connu, et c'est une expérience professionnelle. Donc, c'est au-dessus des autres diplômes. Nous nous sommes exprimés en 2009 lors de la création du contrat doctoral, et en 2011, à la demande du Conseil stratégique de la recherche et de la technologie, et au cours des assises pour la recherche en 2012, toujours dans ce sens, bien sûr. Pour nous, c'est essentiel, cette reconnaissance du doctorat, parce qu'on a besoin aujourd'hui de docteurs dans l'industrie. Bien sûr, on en a besoin dans la recherche, mais ça, c'est évident, donc je n'insiste pas. Sauf que aujourd'hui, même dans la recherche publique, on a un degré de précarité qui est tellement important, qui est inacceptable. inacceptable, excusez-moi. On demande aujourd'hui que les docteurs soient recrutés au plus près de la thèse, parce que là, on parle de l'insertion des docteurs, mais on oublie tous les post-doctorants hein, qui sont en contrat précaire pendant 2, voire 5, 6 ans, voire plus dans certains domaines. Et dans l'industrie, il est absolument nécessaire de recruter des docteurs. On incite aujourd'hui les chercheurs à travailler pour l'industrie, pour améliorer la compétitivité des entreprises. Et donc ça implique forcément qu'il y ait dans l'entreprise des liens avec les laboratoires de recherche publique. C'est un des exemples concrets où on peut voir la nécessité d'avoir des docteurs dans l'entreprise.
J'ai une question quand même. Est-ce que dans les grilles de rémunération, par exemple chez Thales, les docteurs sont rémunérés à leur niveau par rapport aux diplômés de grandes écoles? Si on prend une question concrète de la mise en œuvre d'une
thèse. Dans Thales, les docteurs sont rémunérés avec la même grille que les écoles du meilleur rang, donc les grandes écoles. On a des grilles qui sont qui bougent hein, en fonction des années. Qui s'adapte à l'évolution des formations. Et les docteurs n'ont pas un niveau particulier, mais ils correspondent aux meilleurs des grandes écoles dans Thalès. Ça n'est pas le cas partout. Par exemple, c'est l'industrie. L'industrie publique, au CEA par exemple, les docteurs qui sont embauchés comme des ingénieurs. Pendant très longtemps, ils étaient même embauchés en dessous des ingénieurs de grandes écoles. Je ne sais pas si je peux continuer sur
rapidement,
le... un exemple que je voulais donner, c'est pourquoi on a besoin de ce lien et des docteurs dans l'industrie. C'est que vous savez tous maintenant que la recherche publique se finance avec des projets et que ces projets, on leur demande maintenant très souvent d'être soit en partenariat avec des entreprises, soit de se faire soutenir par des entreprises. Et les chercheurs ne vont pas voir les responsables d'entreprise, ni même les chefs de service qui, à la vue d'un projet de recherche, ne comprendraient pas directement le lien, mais ils vont voir systématiquement des docteurs parce qu'ils se comprennent mieux et les docteurs sont capables de retranscrire, de montrer quel est l'intérêt de ces projets dans l'entreprise.
Alors merci. Alors Claire Guichet, vous êtes doctorante. Oui. Bien évidemment, donc vous êtes un peu au cœur du sujet, comme tout le monde. Vous êtes un objet de recherche pour nous. Bon, il y a une critique peut être pertinente ou pas pertinente de José Milano sur la question des écoles doctorales. Et tout compte fait, il y a un débat permanent en France sur la thèse qui est formulée différemment. Mais est-ce qu'elle inspire confiance, tout compte fait, la thèse? On voit souvent des critiques, y compris dans le milieu académique, hein, sur la qualité de la thèse. Alors, vous êtes doctorante, on va pas parler de votre thèse, évidemment, mais quel est votre regard dans vous avez été très impliqué dans les assises sur ces questions-là. Qu'est-ce que vous en avez retiré des évolutions actuelles, de ce qu'il y a à garder, de ce qu'il y a à faire évoluer?
Il y a effectivement l'expérience du comité de pilotage des assises, et puis après j'étais attentive à ce que disait monsieur, parce que en ce moment je fais partie du comité Supemploi qui a été créé par la ministre, dont on ne sait toujours pas si on peut citer le nom aujourd'hui, il y a quelques temps, et qui est censé participer justement au rapprochement des universités et des entreprises. Moi, ce que je voudrais dire déjà, c'est qu'effectivement pour moi le problème de la reconnaissance du doctorat, c'est avant tout l'apogée, le symbole le plus important du problème français de la dualité de l'enseignement supérieur et de la mauvaise vision de l'université. J'en prends deux exemples. On vient de nous dire sur la reconnaissance du doctorat, d'abord sur les entreprises, on compare ça tout de suite, on compare le bac plus 8 de l'université avec le bac plus 5 des grandes écoles. Mais aujourd'hui, si on veut aller même dans certaines branches, faire un doctorat après un master universitaire, vous met plus en danger pour votre insertion professionnelle. C'est-à-dire que avec vos 3 années d'études, vous risquez de vous retrouver plus en difficulté que vos copains qui se sont arrêtés au bac plus 5 avec le même master. Donc ça prouve bien que là il y a un problème culturel. Pourquoi on aurait plus de mal à insérer quelqu'un qui a juste fait plus que le reste de sa promotion? On a déjà là un problème. Ensuite, deuxièmement, quand on nous parle des grandes écoles, la transversalité, etc. Enfin, moi, je veux bien tout, mais en réalité, on sait très bien que la qualité des diplômes de grandes écoles est elle aussi très homogène, et que donc on retrouve aussi dans les disparités d'insertion professionnelle entre grandes écoles et universités une part de culturel, etc. sur lequel la loi peut essayer, mais ne fait pas tout. Et dernier point, sur le deuxième concours de l'ENA, par exemple, on nous dit, oui, effectivement, les doctorants vont pouvoir accéder au concours interne, les doctorants contractuels, ceux qui sont en contrat doctoral, ce qui, en fait, finalement, sont des contractuels de la fonction publique. Donc, finalement, j'ai envie de dire encore heureux. Mais les autres, ceux qui ne sont pas financés par un contrat doctoral, font exactement la même chose, sauf qu'en plus, ils travaillent à côté pour financer leurs études. Mais bon. Sur la question juste de ce que vous disiez sur la formation doctorale, en revanche, une fois qu'on a dépassé cette question du problème culturel, il y a effectivement un souci. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est le lien qu'il y a entre la précarité dans l'insertion dans la recherche publique et, de l'autre, ce qu'on reproche aux docteurs à la sortie de leurs études doctorales. Quand on est en train de faire un doctorat, si on veut avoir les capacités un jour de devenir enseignant-chercheur, on va vous demander quoi ? On va vous demander de publier dans un maximum de revues. On va vous demander d'enseigner. On va vous demander d'organiser des colloques au labo, de faire partie de je sais pas combien de séminaires dans lesquels vous allez faire des lectures qui n'ont rien à voir avec votre thèse, parce qu'il faut que vous montriez en plus que vous êtes diversifié. Et puis il faut que vous aussi que vous fassiez un réseau professionnel, donc il faut que vous soyez à tous les colloques, non seulement de votre discipline, mais aussi un petit peu de tout ce qui touche au bord, etc. Parce que vous imaginez bien que la qualification pour devenir enseignant-chercheur, ça dépend aussi un peu de ça. Et en revanche, si vous voulez vous insérer, notamment dans le secteur privé, voire autrement préparer des concours de la fonction publique, on va vous demander tout l'inverse. On va vous demander de faire votre thèse, si possible, très rapidement, sur un sujet qui soit pointu, mais un peu appliqué, histoire que vous puissiez facilement le vulgariser et l'utiliser directement dans d'autres domaines, etc. Alors, souvent, quand on commence une thèse, on vous dit, alors, vous voulez être enseignant-chercheur ou pas ? Sauf que la question, c'est qu'aujourd'hui, le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche publique, elle est faite de quoi ? Elle est faite de précarité, elle est faite de gens qui ont eu d'excellentes, parfois d'excellentes thèses, mais qui n'auront pas de poste, qui vont passer des années à ramer, etc., etc. Donc, est-ce que vous voulez faire enseignant-chercheur ? C'est pas une question à poser à des gens qui vont tout faire pour essayer d'y arriver et qui, s'ils n'y arrivent pas, chercheront un plan B. Sauf que si, pendant ce temps-là, ils ont tout fait pour se faire le meilleur CV académique possible, eh ben ils vont se planter au moment où ils essaieront de se réorienter. Pourquoi ? Moi, je pense que déjà, un, il faut qu'on ait dans les écoles doctorales une progression vis-à-vis de ça, c'est-à-dire qu'on commence déjà à avoir chaque année des bilans d'étapes qui permettent de monter plus facilement un projet de thèse, un projet d'insertion dans l'emploi, etc. Mais que aussi, il faut évidemment travailler sur la question de l'insertion dans la recherche publique, sur la précarité des emplois dans la recherche, pour permettre aux doctorants de faire ce qu'ils devraient faire en priorité pendant leur thèse, une thèse.
Alors, Isabelle Tissé-Saint-Jean, vous êtes enseignante-chercheuse, vous êtes vice-présidente de la région, mais vous êtes enseignante-chercheuse. Est-ce qu'il n'y a pas justement, en écoutant Claire Guichet, une révolution copernicienne à faire du côté des académiques sur la perception qu'ils ont de la thèse, qui n'est pas simplement quelque chose pour devenir enseignant-chercheur ?
Alors là, vous me mettez une casquette, sachant que je ne sais pas si j'ai le droit de parler, parce que je suis moi-même dans une période de réserve, donc...
vous avez le droit, enfin, c'est la ministre qui ne pouvait pas. Vous ne pouvez pas vous fréquenter.
Je prends ce risque-là. Alors, c'est un sujet absolument majeur. C'est pour... Enfin, à la fois pour la compétitivité, pour le dynamisme, pour la création d'emplois dans notre pays, et c'est un sujet absolument majeur pour la recherche et pour l'avenir de la recherche et de l'enseignement supérieur public. C'est vraiment un sujet fondamental. La problématique du doctorat, c'est un sujet absolument fondamental pour à plein de niveaux. Non seulement pour la situation des jeunes, et je crois qu'il faut quand même à un moment ne jamais perdre de vue ça quand on est en responsabilité, pour ce qu'ils sont en train de vivre. On le sait, la nouvelle génération qui est là vit des choses très compliquées aujourd'hui. Donc il faut que nous, et là je mets ma casquette d'élu, je suis désolée, élus politiques, eh bien on fasse tout pour essayer de les aider, et en particulier les docteurs, parce qu'ils sont pris dans un mur, dans plusieurs murs, ils sont coincés dans plusieurs murs. Ils sont coincés dans le mur, Claire le disait à juste titre, hein, qui est le mur de la difficulté de l'emploi public, avec cette montée de la précarité, c'est vrai, cette montée de la précarité qui a fait que la situation des jeunes est de plus en plus compliquée. Moi, j'ai entendu à plusieurs reprises des gens dire moi, j'ai été recruté sans même doctorat, sans même avoir le doctorat, et des très grands scientifiques au CNRS. Ça existait, ça existait. Aujourd'hui, on leur demande d'enchaîner postdoc après postdoc. L'âge d'entrée dans le milieu a reculé à 32 ans. Deux ans d'âge d'entrée dans le milieu, c'est énorme statistiquement, c'est énorme. Donc ça, c'est un premier élément. De l'autre côté, vous avez un autre mur qui est l'entreprise et l'insertion dans l'entreprise pour les docteurs. Et ce mur-là, alors il bouge un peu, on en discutait tout à l'heure, il bouge un peu, il bouge dans les grands groupes. Moi, depuis que je traite cette question à la région, donc là je vais mettre ma casquette région, depuis que je traite cette question à la région, je vois que le mur n'est pas aussi dur qu'au départ. C'est-à-dire qu'il y a de la part des grands groupes une évolution et une prise de conscience en raison d'un travail qui a été fait, qui effectivement date de nombreuses années, qui a été renforcé aussi par un certain nombre d'associations qui se sont mis sur ces questions, qui ont porté ces questions, qui ont fait des études. Et les entreprises se sont rendues compte aussi, parce qu'il y a l'international, aussi parce qu'ils se rendent compte qu'on a une spécificité française, eh bien, ils se sont rendus compte que si un docteur, c'était pas, comme le disait Claire tout à l'heure, quelqu'un de trop spécialisé, de aigri parce que pas employé ayant échoué sa carrière dans le public, mais que c'était un vrai vivier de compétences et de talents pour l'entreprise, et que l'entreprise a tout intérêt, comme la fonction publique, a tout intérêt à diversifier ses talents, les viviers dans lesquels elle puise les gens qu'elle va mettre en responsabilité. Ça bouge du côté des grands groupes. Moi, vraiment, quand j'ai des discussions avec les chefs d'entreprise, je me rends compte que les discussions que j'avais il y a 3-4 ans ne sont plus celles que j'ai aujourd'hui. En revanche, c'est beaucoup plus résistant du côté des PME. C'est beaucoup plus résistant du côté des PME. Et chez les doctorants et chez les académiques, si vous voulez, pour répondre à la question initiale, c'est pas là où le bas blesse le plus. L'université, on le sait tous aujourd'hui, a fait quand même une révolution et comprend que dès lors qu'on préserve ses fondamentaux, et en particulier dans la recherche, en particulier le fait qu'elle puisse continuer à faire de la recherche fondamentale et qu'il n'y ait pas une instrumentalisation systématique, eh bien oui, le monde de l'entreprise est un monde qui donne des débouchés aux jeunes qu'elle forme, c'est de l'emploi et que c'est aussi des lieux de valorisation de la recherche qu'elle peut porter lorsque c'est la valorisation économique. Donc je crois que, et le travail que vous avez fait à l'AEF avec ces salons, a pu y contribuer, et je pense que les choses ont bougé beaucoup. Mais il y a encore énormément de chemin à parcourir, énormément de chemin à parcourir. Je pense qu'on a parlé de la haute fonction publique. Moi, je vais prendre ma casquette d'élu, de femme politique aujourd'hui. Je n'étais pas du tout destinée à faire ça. Je n'imaginais pas du tout que mon histoire serait un jour d'exercer des responsabilités politiques. Il s'est trouvé qu'on m'a proposé de le faire. Et l'une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, très précisément, l'une des raisons pour lesquelles je l'ai fait, c'est pour montrer que vous pouvez être docteur et exercer des responsabilités politiques, et que vous n'êtes pas obligé de passer par le cursus habituel qui est celui de Sciences Po plus l'ENA pour exercer des responsabilités politiques. Nous sommes, en tant qu'élus, vos représentants. Vos représentants, on n'est rien d'autre, c'est pas une profession la politique, on est vos représentants, et je pense que la société française et nous tous, nous avons vraiment besoin de montrer que la diversité des trajectoires est possible et qu'en particulier, eh bien, des gens qui sont passés par le doctorat, ils peuvent exercer ces responsabilités et qu'on n'est pas obligé d'être énarque et Sciences Po, ce que je ne suis pas et ce que je ne serai vraisemblablement jamais. Je crois que il y a beaucoup de talent dans la formation par le doctorat. Alors moi, j'ai dans mon action, dans mon action de, oui, c'est un sujet qui me passionne, donc je peux en faire en parler longuement. Dans mon action en tant que vice-présidente à la région, on finance beaucoup d'initiatives. On a un dispositif de revalorisation du doctorat, insertion professionnelle des docteurs. Et on finance des tas d'opérations très différentes, donc qui sont les nouveaux chapitres de la thèse, qui sont les doctoriales, et des initiatives de ce type, des rencontres entre entreprises et docteurs. Et puis on a financé aussi une enquête sur l'insertion des docteurs en Île-de-France. Et cette enquête a bien montré les compétences extrêmement fortes qui font que quand on apprend au docteur à parler en termes RH, eh bien, les entreprises se rendent compte que oui, les docteurs, ils ont des tas de compétences et que non, ils sont pas trop spécialisés. Ils ont des tas de compétences qui font que, eh bien, ils sont extrêmement intéressants pour une entreprise, même s'il faut un processus d'accompagnement. Donc, les choses bougent. On est en train d'avancer. Je me réjouis que la loi sur ce point ait été dans le bon sens. Il faut vraiment amplifier l'effort. L'une des conditions, c'est aussi le fait que les financements pour la recherche publique soient au rendez-vous, parce que sinon on sait qu'il n'y aura pas d'emploi créé dans les universités, les organismes de recherche, avec en plus une problématique de pyramide des âges qui est très inquiétante pour les jeunes qui arrivent. Il faut aussi, et c'était un point dont on discutait, il faut aussi que les entreprises, parce que ça aussi c'est un débouché, les entreprises, elles ont là une responsabilité en France extrêmement importante, qui est de se remettre à financer la recherche. C'est l'un des problèmes majeurs de la recherche française en ce moment, c'est que les entreprises, c'est pas la recherche publique qui est extraordinaire étant donné les conditions dans lesquelles elle est, mais c'est vrai que du côté de la recherche privée, il y a un déficit de financement, il y a un déficit d'investissement. Il faut absolument que les entreprises françaises, c'est de leur responsabilité, réinvestissent dans la recherche. On a mis le crédit impôt recherche à 6 milliards. Vous regardez le financement de la recherche privée, il est encore trop constant. Je me tourne vers vous en vous disant, écoutez, là, je crois qu'il y a un point dur qui ne permettra pas de débloquer le reste si ce point-là ne bouge pas.
Merci. Alors, il y a plusieurs autres intervenants qui veulent dire des choses. Est revenu quand même souvent Patrick Fridançon et Madame Loiseau, le problème des compétences des docteurs, l'adaptation, je pense, éventuellement des concours de l'ENA ou des méthodes de recrutement dans le privé, parce qu'on s'aperçoit qu'on cherche peut-être des fois des profils qui sont pas ceux qui sont nécessaires. On peut s'interroger sur les profils innovation, je crois. C'est un débat permanent aussi sur le doute sur les compétences des docteurs, sur leur aptitude à être assez bon sur certains sujets.
Bon, je suis prêt à entrer dans ce débat, mais c'est quand même pas mon débat principal. Mon débat principal, c'est la comparaison internationale. C'est la part de docteurs dans les trois fonctions publiques et la part de docteurs dans les entreprises. Et je le dis franchement, et je mets les pieds dans le plat, mon débat n'est pas, quels que soient mes sentiments personnels, ce qui se passe dans l'enseignement supérieur public et dans la recherche publique. L'objectif de la loi, c'est de diffuser les docteurs là où ils ne sont pas suffisamment. Et moi, je ne parlerai que de ça. Alors après, on peut revenir sur ce point, mais je voudrais ajouter quand même deux ou trois éléments. Claire Guichet a évoqué le fait que s'engager dans des études doctorales risquait de mettre en danger, je cite sa formule, les étudiants et les étudiantes. Ça n'est absolument pas montré, au contraire, par la dernière enquête du CEREC, enquête de Julien Calment, qui est publique et qui montre que l'insertion des docteurs est meilleure que l'insertion des masters. Donc là-dessus, il faut être clair. De même, moi, je ne rentrerai pas non plus dans un débat entre les écoles et les universités ou entre les ingénieurs et les autres. Je pense que nous sommes dans une perspective de mouvement, que ce mouvement a commencé bien avant la loi de 2013, qu'il y a plein de choses qui se font ensemble. Et donc, je n'opposerai pas les talents des ingénieurs et les talents des docteurs. Il y a besoin des deux. Et ça, c'est l'objectif. Alors, je reviens maintenant sur... et j'ajoute que Michel Crozier, qui a été cité tout à l'heure, a écrit un article que j'ai retrouvé à l'occasion de cette mission, dans lequel il se prononce pour une part beaucoup plus grande de docteurs dans les services et dans l'industrie. Donc ça, c'est juste un mot sur Michel Crozier. Ensuite, j'ai un point que j'avais oublié. Dans la loi, il y a une disposition qui va permettre un classement plus favorable des docteurs une fois qu'ils sont recrutés dans les trois fonctions publiques. Et donc cette disposition-là, qui est dans l'article 78, va permettre une amélioration des rémunérations par des effets de reclassement par rapport au décret de 2006. Sur la question qui est directement posée, moi je suis assez dans l'esprit qui a été évoqué par plusieurs d'entre nous, et notamment par José Milano. Il y a faire mouvement, ça veut dire que tout le monde fasse mouvement. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants. Il y a tout le monde qui irait dans le sens d'une plus grande diffusion des docteurs dans l'économie, dans les trois fonctions publiques. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la mission que je fais, l'idée qu'il puisse y avoir des formations complémentaires pour les trois fonctions publiques, comme ça s'est fait pour les mines, les ponts, les eaux et forêts. On est d'accord. Que on puisse discuter, même si ce n'est pas de la compétence de la mission, de la question des écoles doctorales qui est régie par l'arrêté du 7 août 2006, ça paraît complètement possible, puisque, après avoir traité de la licence et du master, le cadre national des formations qui est en préparation rue Descartes et en préparation par discussion avec les acteurs de la société, qu'il va toucher le niveau doctorat. Donc là-dessus, on peut discuter. En revanche, moi, ce que je tiens à dire, c'est qu'il existe aujourd'hui des écoles doctorales. Et j'étais hier en liaison visio avec celle d'Aix-Marseille Université qui font déjà ça, c'est-à-dire qui ont amélioré les cursus dans le cursus doctoral dans le sens de la transversalité, de la culture générale, d'éléments pré-professionnels. Et de ce point de vue-là, oui, tout ne se réglera pas par la loi, mais ça se réglera par des initiatives et par des partenariats. D'accord. Mais qu'on applique la loi. Et là, je voudrais terminer en me retournant vers Isabelle Tissaint-Jean. Chère Isabelle, un des objets de ma mission, ce sont les collectivités territoriales. Qu'est-ce que va proposer l'Association des régions de France pour l'insertion d'un plus grand nombre de docteurs à des postes de responsabilité dans les collectivités territoriales. Dans la mesure où c'est une mission qui est ouverte, je suis preneur de votre réponse.
Mais voilà un beau débat aussi en perspective. José Milano, vous vouliez réagir, Simone Cassette aussi.
On peut faire l'exégèse des travaux d'un grand maître, mais je faisais référence plutôt à la question de l'obligation de négociation dans les branches, et pas du tout à l'importance des docteurs dans leur insertion professionnelle. Bon, moi je suis assez en phase avec un certain nombre de choses qui viennent d'être dites. Bon, si on veut être concret, une entreprise, elle cherche des compétences. Bon, et elle va chercher les meilleures compétences. Donc la question c'est, est-ce que le dispositif de fabrication de ces compétences-là, je suis désolé, c'est quand même au cœur du raisonnement d'une entreprise, permet d'avoir des gens qui sont différenciants par rapport au public qu'elle a aujourd'hui. C'est C'est comme ça. Donc après, on peut le regretter. Il y a sans doute des choses à faire sur la diversité, sur la prise de risque dans le recrutement. N'empêche que la
question. Est-ce que c'est pas le problème dans les entreprises? Non, mais le marketing. Ce que disait Franck Riboud, il disait mes cadres HEC ont du mal à recruter autrement.
Non, mais que... ça s'appelle l'être humain, d'accord? L'être humain consiste à être plus en accord avec des gens qui nous ressemblent, chacun d'entre nous. C'est comme ça qu'on est construit. Donc effectivement, il y a moins de prise de risque quand vous prenez des gens qui ont les mêmes études que vous. Je jette la pierre à personne. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc la prise de distance par rapport à sa logique de raisonnement et le fait de se dire je vais prendre quelqu'un qui est différent et je vais m'adapter et je vais adapter mon organisation à cette personne-là, c'est quand même c'est quelque chose de très compliqué, d'autant que les entreprises sont prises dans un système qui fait qu'aujourd'hui elles sont amenées à aller très vite et à prendre des décisions rapides. L'accélération du temps, elle a aussi un impact dans les prises de décision de recrutement et aussi de développement de compétences. Parce qu'on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que vous voulez des gens qui soient opérationnels tout de suite. On peut porter tous les jugements qu'on veut là-dessus. N'empêche, c'est une réalité d'entreprise. Donc, premier sujet, est-ce que, individuellement, les docteurs ont d'autres formations qui leur permettent ou d'autres dispositifs de préparation qui leur permettent d'accéder plus facilement à l'entreprise? L'entreprise a des efforts à faire pour mieux comprendre les compétences distinctives de ces jeunes. Et deuxièmement, est-ce que l'appareil de recherche, c'est-à-dire dans sa globalité, par l'intermédiaire du développement de relations constantes avec les entreprises, notamment les grandes, on a évoqué le sujet de la recherche, permet naturellement, je dirais, l'insertion professionnelle. C'est plus facile pour les ingénieries, un certain nombre de disciplines, que les sciences sociales. Donc là aussi, il faudra aussi réfléchir à ce domaine-là. Ça peut pas se faire au même rythme, de la même façon. Vous n'allez pas chercher des sociologues, vous n'avez pas vous êtes une entreprise privée, c'est pas immédiat de se dire j'ai besoin de m'appuyer sur un labo de recherche en sociologie. On peut le regretter. On pense plus évidemment à d'autres disciplines. J'évoquais la chimie, la métallurgie, les ingénieries en général. Voilà. Donc, c'est à la fois un travail individuel et puis aussi un travail, me semble-t-il, collectif de rapprochement de ces deux univers.
Alors, Simon Cassette, est-ce que ça veut dire qu'il y a une ouverture sur la négociation diversifiée, tout compte fait, entre les entreprises, les syndicats? Il y a une échéance qui a été fixée au 1er janvier 2016. C'est à la fois lointain et proche, mais est-ce que ça va vraiment déboucher sur quelque chose?
Nous, on souhaite vraiment que ça débouche sur quelque chose. Je voudrais quand même revenir sur les choix des entreprises de prendre plutôt des ingénieurs que sortant d'école que des docteurs. En fait, effectivement, c'est le choix de ne pas prendre de risques pour l'entreprise, parce que c'est un certain corporatisme. On peut le dire quand même, franchement, on se base effectivement sur la formation du recruteur et sur la réputation de l'école. Donc c'est vraiment un grand manque de connaissances des doctorats. Et par contre, dans les entreprises qui recrutent des docteurs, en général, lorsqu'ils ont pris ce risque, ils en demandent, parce que la formation... c'est une formation qui est beaucoup plus ouverte. La grosse différence entre les formations d'ingénieurs et les formations de docteurs, c'est que la sélection pour les écoles d'ingénieurs, elle se fait très tôt. Elle se fait juste à la sortie du bac. Et ensuite, ils suivent leurs cours et ils ont des formations qu'on pourrait dire assez formatées. Et donc, c'est aussi ça que les entreprises apprécient, parce que ça correspond à leur schéma. Par contre, ce n'est pas à l'université, la sélection, elle se fait beaucoup plus tard. Elle se fait aussi avec le choix des étudiants selon des orientations. Donc c'est avec des étudiants qui sont beaucoup plus mûrs et donc qui ont choisi cette voie. Et donc ça donne en général de très bons résultats. D'ailleurs, dans l'entreprise, il est tout à fait possible de former. Je vais parler des chiffres parce que c'est dans mon entreprise, c'est essentiellement ceux-là que l'on recrute. Et dans le cadre des doctorants qui sont en chiffres, on les oblige, entre guillemets, à prendre des initiatives, à encadrer des stagiaires. Donc, ils ont déjà des notions, finalement, dans l'entreprise, de management. Ils sont amenés à travailler sur des brevets. Donc, ils ont aussi des notions de propriété intellectuelle. Et donc, très rapidement, ils ont une culture qui leur permet de s'insérer très facilement dans l'entreprise et de ensuite de monter les échelons pour prendre des responsabilités. Je voudrais juste rajouter un point, c'est qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Isabelle Dissingean, c'est-à-dire que si il n'y a pas plus de R&D développé dans les entreprises, on peut faire n'importe quelle loi, il n'y aura pas plus d'embauche de docteurs dans les entreprises. Et nous avons à la CGT une demande depuis quelques années, c'est s'il n'est pas possible de supprimer le crédit impôt recherche pour l'affecter à la recherche publique, eh bien au moins que les entreprises qui en bénéficient doivent prouver qu'elles travaillent vraiment en recherche et qu'elles embauchent des docteurs. Donc ça devrait être un des critères essentiels.
Ça, c'est notre débat de demain matin.
Pour avoir... Oui, mais c'est important dans le cadre de du recrutement des docteurs.
C'est le débat de demain matin sur le crédit d'impôt recherche et son apport dans le rapprochement recherche publique.
Et juste dans le domaine des SHS, pour les entreprises, le fait que on vit dans une époque où la mondialisation est essentielle. Les entreprises ont besoin de se développer à l'étranger. Les grandes entreprises se font la concurrence pour aller dans les pays émergents. Il est essentiel d'avoir des gens qui, non seulement parlent anglais, parce que ça, évidemment, c'est ce qu'ils apprennent aussi dans les écoles d'ingénieurs, mais qui ont une large culture et qui peuvent travailler sur l'interculturel, parce que ça évitera bien des déboires à des entreprises qui veulent s'implanter à l'étranger sans avoir pris en compte les différences de culture.
Merci. Alors, une question à Nathalie Loison. On a abordé le problème de l'adaptation de la formation des docteurs pour les rendre plus opérationnels. Je crois qu'il y a eu un rapport de Madame Pappalardo sur le jury des concours de l'ENA qui dénonçait, alors à juste titre, pas à juste titre, mais le profil et le manque d'audace, tout compte fait, des candidats à l'ENA, le phénomène d'autocensure, je crois le manque d'inventivité, etc. Est-ce que l'apport de docteurs ne va pas vous amener aussi à réfléchir à la façon de faire les concours? Comme de la même manière, la façon de recruter dans le privé, on recrute sur des modèles et des schémas qui ne valorisent pas certaines compétences. Je voudrais donner juste une anecdote. Hein. Serge Villepelet, le président de Pricewaterhouse, qui est décédé récemment, me racontait qu'il avait eu un choc, il était diplômé de l'ESSEC, et son patron monde de Pricewaterhouse, qui était britannique, était docteur en études byzantines. Et il a dit, mais comment vous faites pour diriger un cabinet d'audit mondial? Il avait dit, c'est simple, j'ai appris plein de choses en faisant des études byzantines. Et surtout, après, j'ai fait un MBA en formation continue, quoi. J'ai appris le sens du business comme ça. Donc, c'est pour dire que le doctorat, il y a peut-être des compétences méconnues, mais qui sont reconnues ailleurs sur la capacité d'adaptation et d'apprendre. Et c'est peut-être derrière le problème de la formation tout au long de la vie.
Alors, c'est intéressant que vous parliez d'expérience étrangère parce que depuis tout à l'heure, on n'en parlait pas du tout. Et effectivement, on a une spécificité française qui est l'obsession du diplôme. Moi, j'ai 25 ans de haute fonction publique derrière moi et en particulier à l'étranger. 9 fois sur 10, mes interlocuteurs étrangers, je ne sais pas quel diplôme ils avaient et ça n'avait absolument aucune importance dans le dialogue que nous avions ensemble parce qu'ils étaient compétents. Il n'y a que dans notre pays que 30 ans après avoir terminé une grande école ou réussi un doctorat, on en parle encore. Alors simplement, c'est le pays où nous sommes et le faire évoluer, ça peut être un petit peu compliqué. Je ne partage pas tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire on recrute les gens qui vous ressemblent et puis finalement c'est comme ça et c'est très bien. Je suis certaine d'une chose, c'est que ça n'est pas très bien, parce qu'aujourd'hui, la complexité requiert de la diversité. Et là, beaucoup d'entreprises, beaucoup de groupes mondiaux l'ont compris. Pour faire face à une situation qui est largement imprévisible, en tout cas qui ne ressemble pas à ce qu'on a connu dans les dernières décennies, faire venir le plus possible de diversité, de tous ordres, de diversité d'origine académique, de diversité homme-femme, de diversité d'origine sociale, c'est indispensable aussi bien dans les entreprises que dans la fonction publique. Et c'est la raison pour laquelle on travaille à l'ENA depuis plusieurs années, et le rapport de Madame Pappalardo date un peu, pardon de le dire, mais on travaille à l'évolution de nos modes de recrutement, pas dans l'optique, hein, je vais vous faire de la peine, pas dans l'optique de se dire comment allons-nous faire pour qu'à tout prix nous ayons davantage de docteurs. C'est pas un objectif en soi. Notre objectif, c'est d'avoir les meilleurs, si on est bien d'accord sur ce que veut dire les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui ont les compétences nécessaires pour devenir des cadres supérieurs et dirigeants de la fonction publique de l'État. Donc on ne va pas changer les concours pour avoir plus de docteurs, d'abord, ce que serait contraire à un principe constitutionnel qui est l'égalité d'accès aux emplois publics. On fait évoluer les concours pour être sûr d'avoir ceux qui présentent les compétences et la motivation pour rejoindre la haute fonction publique. Alors je réagis aussi très rapidement à une phrase que j'ai entendue tout à l'heure, qui a été probablement dite rapidement et qui ne voulait pas dire exactement ce qu'elle a dit, mais qui m'a fait un peu peur. C'est-à-dire, bon, on prépare un doctorat pour faire de la recherche publique, et le reste, c'est un plan B. Moi, j'ai pas du tout envie de recruter des plans B. Mais alors, pas du tout. J'ai envie de recruter des gens qui passent le concours de l'ENA parce qu'ils veulent être serviteurs de l'État. Et c'est ça que je vais regarder, et c'est ça l'évolution des concours de la fonction publique. Ça a déjà commencé. Ça peut être très positif pour des gens qui ont un grade de docteur et qui ont un vrai projet, un vrai parcours, une vraie motivation, des vraies compétences. Donc on travaille sur les compétences, les entretiens avec le jury n'ont plus rien à voir avec les grands oraux tels qu'on les a décrits et parfois décriés. On n'est plus dans le concours de beauté intellectuel, on est dans pourquoi je veux faire ce métier, ce que j'en comprends, ce que je peux lui apporter. On est dans le recrutement et plus dans le concours de mandarin.
Merci. Une question de José Milano et Claire Guichet, et on va bientôt conclure. Est-ce que l'échéance du 1er janvier 2016, est-ce que c'est quand même pas une bonne stimulation pour tous les acteurs ?
Je suis convaincu par la nécessité de la diversité. Je dis juste que c'est très difficile. Voilà. Mais l'objectif est absolument celui-là. Hein, je partage totalement. Quant à la diversité des sciences sociales pour comprendre le monde d'aujourd'hui, oui, mais encore faut-il que ce soit opérationnalisable. Une entreprise, elle a besoin de réponses à court terme et pas forcément d'un spécialiste hyper compétent dans un domaine précis de l'Inde ou de la Chine. C'est pas, encore une fois, c'est pas tout à fait les mêmes logiques. Elles sont toutes les deux légitimes. Elles doivent se rapprocher. Bon. Encore une fois, bon, il y a des textes, on appliquera les textes, ça crée des échéances, c'est pas ça le sujet. Je pense que si c'est pour ouvrir des négociations, les refermer aussitôt parce qu'il n'y a pas de contenu, ça ne sert à rien, et pourtant on est en conformité avec les textes. On ne souhaite pas être là-dedans. Je crois que ce qui sera plus intéressant, c'est qu'effectivement, au travers de la valorisation des expériences, et un certain nombre d'entre elles ont déjà été évoquées, on donne envie à la fois au dispositif d'enseignement supérieur d'une part et à quelques entreprises un peu moteurs hein, au travers de leurs expériences à démultiplier les expériences réussies de façon à valoriser effectivement les docteurs qui, aujourd'hui ou demain, peuvent rejoindre des entreprises. C'est plus par une approche un peu ascendante de valorisation des bonnes pratiques secteur d'activité par secteur d'activité pour montrer que c'est possible, que ça crée de la valeur, que ça permet d'avoir des jeunes employables et qui sont tout à fait en adéquation avec les besoins des entreprises dans le monde d'aujourd'hui, plutôt que d'avoir des cadres législatifs ou réglementaires. Encore une fois, quand ils existent, nous nous assurons de bien les appliquer, mais je ne crois pas que ce soit ça qui nous permette durablement de faire ce qu'a besoin ce pays, c'est-à-dire de valoriser sa recherche et de faire en sorte que les gens qui s'engagent dans des études longues trouvent des débouchés à la hauteur de leurs compétences.
Merci. Alors, en quelques minutes maintenant, parce qu'on va conclure, Claire Guichet.
Déjà, je voulais juste répondre à la sollicitation de Mme Loiseau, et elle a raison, parce que pour le coup, elle va me donner la possibilité de m'expliquer par rapport à ce que je voulais dire tout à l'heure. Il ne s'agit pas pour moi de dire que d'autres plans de carrière que la recherche publique sont des plans B pour les docteurs. Ce que je veux dire, c'est que quand on est sous une pression telle, pendant son cursus doctoral, de savoir que si éventuellement on veut pouvoir envisager une carrière dans la fonction publique, il faut avoir coché un certain nombre de cases, etc., beaucoup de doctorants qui ne savent pas encore quelles vont être à la fin de leur doctorat leurs possibilités et leurs envies, préfèrent cocher toutes ces cases au fur et à mesure pour se dire bon bah au moins j'essaye de pouvoir faire ça, et que ça ne correspond pas toujours. Et c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'un des problèmes aujourd'hui du doctorat et des écoles doctorales, c'est de ne pas arriver à faire, par un phénomène d'entonnoir, un vrai projet professionnel avec ce doctorat au fur et à mesure, et notamment, mais dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire que autant vers la carrière académique où parfois on se retrouve avec des docteurs qu'ensuite on va recaler à la qualification CNU à qui on aurait pu le dire depuis longtemps, et à l'inverse avec des gens qui ont un projet d'insertion dans la fonction publique ou dans le secteur privé et qu'on n'a pas su guider petit à petit vers un CV qui correspond à ça.
Merci. Rapidement, hein, Isabelle Tissin-Jean, et on va conclure. Je vais donner juste la parole à Patrick Fridançon.
Non, je voulais revenir sur deux points. Le premier point, c'est sur l'une des autres nécessités de faire en sorte que le concours de l'ENA s'ouvre à des gens qui sont passés à la formation par la recherche, enfin une formation par la recherche et à la recherche, hein, qui est beaucoup des énarques, un jour exercent des responsabilités politiques, qu'on le veuille ou non, c'est encore comme ça pour l'instant.
Je voudrais juste dire que c'est 1% des anciens élèves de l'ENA, d'accord. Et qu'il faut arrêter espèce d'obsession sur les énarques font de la politique. Moi, je forme pas des hommes politiques, hein. Je forme des hauts fonctionnaires.
Je vous dis pas que c'est l'unique destination des énarques. Je dis que quand je regarde autour de moi et que je vois les élus politiques, je me rends compte que beaucoup de ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui sont passés par l'ENA. Or, on a un sujet majeur aujourd'hui en France, hein, qui est que l'exercice de la responsabilité politique nécessite un certain nombre de connaissances scientifiques, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui y font appel, et que ça serait quand même bien qu'aujourd'hui, les élus politiques soit en capacité de prendre ces décisions en toute connaissance de cause. Donc je ne dis pas que tous les énarques deviennent des élus politiques. Je dis il y a une surreprésentation dans le milieu politique des énarques, qu'on le veuille ou non, que c'est une réalité statistique. Hein, et je pense que c'est un point qui nécessite aussi qu'on prenne cette dimension en compte et qu'on essaie de travailler.
Hein,
la deuxième chose, c'est sur l'interpellation de Monsieur Fridançon. Je serais évidemment ravie qu'on puisse travailler ensemble sur comment on fait évoluer le recrutement au sein des collectivités territoriales pour que, effectivement, les docteurs intègrent davantage les postes dans les collectivités territoriales. Moi, à l'intérieur de la région Île-de-France, en tant qu'élu, nous n'avons pas la main sur les recrutements dans nos différents services. Il n'en reste pas moins que le travail de sensibilisation à cette question et cette priorité politique que j'ai pu mettre à l'emploi scientifique, à la revalorisation du doctorat, à l'insertion professionnelle des docteurs, a fait qu'il y a eu des embauches de docteurs dans les services qui travaillent à mes côtés, que je remercie sur cette question. Je pense que il faut avancer là-dessus. Maintenant, les autres régions, il faut les faire bouger aussi. Je sais qu'à l'intérieur de la commission ARF, enseignement supérieur et recherche, dont j'ai la vice-présidence, c'est une question qui nous occupe, c'est une question qui occupe les élus en responsabilité dans les régions sur ce point. On y travaille, mais travaillons ensemble pour faire en sorte que ça avance plus vite. Je le souhaite très vivement.
Quelques mots, alors, Patrick Fridançon, pour un débat qui ne fait que s'ouvrir sur la mise en œuvre, puisque vous allez rendre vos conclusions et on a les échéances.
Oui. D'abord, je rebondis sur ce qui vient d'être dit par Isabelle Tissin-Jean. S'il y a un mouvement qui permet d'avoir davantage de docteurs dans les différentes collectivités territoriales, ce mouvement, c'est un mouvement important. Et nous, dans notre mission, Michel de la Casagrande et moi, nous ferons tout pour le faire avancer avec le ministère de l'Intérieur et les différentes associations d'employeurs territoriaux. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle potentielle pour les docteurs. Deuxième chose, et sur le fond du dispositif, le doctorat n'est pas fait pour former des chercheurs. Je le dis violemment, mais fermement. Il est fait pour apporter des compétences multiples ailleurs que dans les secteurs pour lesquels il est né initialement, c'est-à-dire l'enseignement supérieur et la recherche. Et le but de la loi, c'est pourquoi j'ai dit toute la loi, c'est d'irriguer de docteurs tous les secteurs qui en ont besoin, et ça n'est pas seulement les secteurs de la recherche. J'ai évoqué tout à l'heure, à titre symbolique, le Conseil d'État et la Cour des comptes. mais je pourrais évoquer aussi la direction du Trésor. Est-il normal que ce sommet de la fonction publique d'État ne recrute des docteurs que sur des statuts précaires de l'ordre de 2 ans ou 3 ans, et ensuite les jette, les hauts fonctionnaires continuant naturellement leur carrière pour l'éternité. Donc nous, c'est des docteurs femmes et hommes partout où il y en a besoin, et j'estime que la comparaison internationale avec des pays proches comme la France, comme l'Allemagne, avec les États-Unis, montre qu'il peut y avoir des docteurs dans des quantités de secteurs. Et c'est cette diversification-là qui permettra aux docteurs de trouver davantage de place et à la France de trouver une meilleure place.
Merci. Alors, merci à tous nos intervenants. Pour prolonger ce débat, demain, nous remettrons le prix du docteur entrepreneur pour vous montrer qu'il y a autre chose, effectivement, que la recherche publique. Il y a des docteurs entrepreneurs qui créent des entreprises. Je vous remercie toutes et tous.